Bonjour Élodie.
Bonjour.
Bonjour Camille.
Bonjour.
Alors vous travaillez toutes les deux à la Maison de l'Europe de Rennes et on va tenter de comprendre ensemble quels sont les enjeux de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, puisqu'on le sait, depuis le 1er janvier, la France préside ce Conseil de l'Union européenne pour la 13e fois de l'histoire. Alors juste pour rappeler un petit peu, l'Union européenne est composée de 7 institutions: le Parlement européen, le Conseil européen, la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne, la Cour des comptes et enfin le Conseil de l'Union européenne, sur lequel on va s'attarder ensemble. Alors déjà, une première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le rôle de cette institution qu'est le Conseil de l'Union européenne ?
Alors du coup, le Conseil de l'Union européenne, c'est une institution qui représente les intérêts des États, donc des 27 membres de l'Union européenne. Il y a un membre par État, donc il y a 27 membres dans le Conseil. Et donc, c'est les ministres qui assistent à ces réunions. Et en fait, c'est une institution qu'on dit à géométrie variable, dans le sens où si c'est une réunion pour une proposition, par exemple, sur l'environnement, c'est les ministres de l'environnement de chaque pays qui vont y assister, l'agriculture, les ministres de l'agriculture, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est une institution qui représente les intérêts des États par les ministres.
Et derrière, ça implique aussi des votes, des débats. Comment ça se passe ?
Alors, les décisions, elles sont prises... Alors, techniquement, elles devraient être prise au moins à la majorité qualifiée, donc c'est une majorité qui prend en compte la population des États, mais dans la réalité, c'est souvent sur un consensus et l'unanimité avec des négociations en fait entre les États.
D'accord. Et donc, quelles sont les grandes missions de ce Conseil de l'Union européenne ?
Alors du coup, c'est une institution qui a plusieurs missions. Déjà, la première, c'est le volet législatif, c'est-à-dire qu'elle adopte les propositions législatives de la Commission conjointement avec le Parlement. Donc le Parlement, c'est au vote, avec les députés qui sont élus. Et donc au Conseil, c'est donc sur le consensus. Ensuite, c'est surtout aussi de la coordination, c'est-à-dire que les ministres vont en profiter pour discuter et coordonner leurs politiques dans des domaines où ce n'est pas la compétence de l'Union européenne, donc par exemple l'emploi, l'éducation. Ensuite, c'est aussi gérer tout ce qui est la politique étrangère et de sécurité selon les orientations du Conseil européen. Et ensuite, c'est aussi tout ce qui va être accords internationaux. En fait, le Conseil de l'UE délègue la mission de négocier les accords internationaux à la Commission. Mais ensuite, ils doivent être approuvés par le Parlement, par le Conseil et par les États membres. Et enfin, c'est aussi une institution qui adopte le budget de l'Union européenne avec le Parlement européen.
Ok, donc un grand panel de missions pour ce Conseil de l'Union européenne. Alors, pour revenir un peu à la présidence française, tous les 6 mois, donc un pays différent de l'Union européenne prend la présidence, et donc cette fois-ci, c'est la France. Alors, qu'est-ce que ça implique concrètement pour la France ? Quel est le rôle du président et des différents ministres, justement, au sein de ce Conseil ?
Alors, en fait, avoir la présidence du Conseil de l'Union européenne, ça signifie, déjà, en fait, c'est présider les réunions des Conseils de l'Union européenne, c'est-à-dire que le ministre français va être celui qui préside la réunion, par exemple, entre les ministres de l'Agriculture. Et ensuite, c'est organiser les réunions. Donc cet agenda, notamment l'agenda législatif, organiser les réunions, elles vont soit à Bruxelles, soit dans le pays de la présidente. Donc là, pendant 6 mois, il y a énormément de réunions qui sont en France. Notamment début janvier, il y en avait une à Brest avec tous les ministres de la Défense de l'Union européenne. Donc c'est ça, c'est mettre à l'agenda les priorités qui sont valorisées par le pays. C'est-à-dire que comme c'est lui qui fixe les réunions, il peut mettre en valeur certaines priorités. Par exemple, le Portugal, quand il avait la présidence, a organisé un grand sommet social pour parler du socle européen des droits sociaux. Et ensuite, c'est élaborer des compromis donc, entre les États membres pour avoir un consensus au sein du Conseil, mais également un compromis avec les autres institutions européennes, puisqu'il faut représenter le Conseil de l'UE auprès des autres institutions, notamment de la Commission et du Parlement.
D'accord. Et la France ne travaille pas seule sur cette présidence, puisqu'il y a une notion de trio qui a été introduite en 2009 avec donc les 2 autres pays suivants. Donc ça s'étale sur 3 semestres. Donc là, la France travaillera conjointement avec la République tchèque et avec la Suède. Alors on comprend que c'est devenu peut-être une nécessité aussi de travailler à plusieurs, puisque 6 mois, c'est un délai assez court. Qu'est-ce que ça implique aussi de projeter sur 18 mois ensemble ?
Alors c'était nécessaire, donc oui, ça a été changé avec le traité de Lisbonne, parce que, comme tu l'expliques, pour des objectifs de long terme, 6 mois, c'est très dur à mettre en place. 18 mois, ça permet d'avoir une coopération entre des pays qui n'ont pas non plus du tout les mêmes caractéristiques, donc des objectifs qui vont être mieux applicables à tous les pays de l'Union européenne, et des objectifs de plus long terme, avec ensuite des objectifs de court terme par chaque pays sur ces 6 mois de présidence.
Oui, pour assurer un peu une continuité et une cohérence totale. Alors, peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur les grands objectifs annoncés par le président Emmanuel Macron pour la présidence française de l'Union européenne. On sait qu'il a fait une conférence le 19 janvier. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors du coup, Emmanuel Macron a mis en évidence trois grands axes qui sont puissance, relance et appartenance. Et il y a notamment un volet sur lequel il a beaucoup insisté, c'est la notion de puissance, puisqu'il prône des mesures qui sont assez axées sur la sécurité et la défense. Donc notamment, il voudrait mettre en place une boussole, enfin il voudrait continuer une boussole stratégique qui a été initiée par la présidence allemande, qui en fait prévoit les orientations en termes de sécurité et l'exercice concret de cette défense. Il voudrait aussi réformer l'espace Schengen, donc il y a vraiment cette volonté de gérer les frontières et notamment de mieux prendre en charge les flux migratoires qui ont été en cause ces quelques dernières années. Donc il l'assume lui-même, il souhaite passer d'une Europe de coopération à une Europe de puissance pour justement que l'Union européenne soit en mesure d'assurer sa défense et sa sécurité et qu'elle soit souveraine. Alors c'est un terme qui ne fait pas consensus, mais c'est un terme qu'il a employé. Et donc l'orientation, elle est vraiment sur le renforcement de cette action européenne. Et donc il a une vision à long terme, c'est-à-dire que pour lui, c'est une présidence qui doit aussi viser jusqu'en 2030. Et c'est un programme qu'on retrouve également dans sa politique nationale, donc c'est quelque chose de cohérent chez Emmanuel Macron. Voilà.
Donc ça, c'était pour l'aspect un peu puissance. Après, pour l'aspect relance, j'ai vu qu'il y avait aussi une volonté de relancer le numérique qui était assez présente.
Il y a deux textes qui sont très présents, qui s'appellent le Digital and Services Market, donc sur le marché numérique, et le DSA.
Et donc ça, c'est des textes qui sont pionniers, qui sont déjà en cours de négociation au sein des institutions européennes et qui seront possiblement adoptés au premier semestre 2022.
Oui, c'est quelque chose qui est vraiment qui revient dans les esprits, qui est une des priorités de l'Union européenne largement, parce que le numérique, ils sont aperçus que c'était quelque chose qu'il fallait vraiment, enfin il fallait investir sur ce numérique, donc c'est une des priorités au-delà de la présidence française.
Oui, pour être un peu compétitif vis-à-vis aussi de la Chine, des États-Unis. Et il y a aussi, toujours sur cette notion de relance, la question environnementale aussi qui revient pas mal avec notamment une... Il me semble que c'est une taxe carbone aux frontières. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ?
Et du coup, oui, c'est pareil, un des objectifs de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, c'est de peaufiner cet objectif de mettre en place une taxe carbone aux frontières, notamment lié à tout ce qui va être importation, l'impact écologique des importations. Et ça rentre dans le cadre du pacte vert, en fait, avec les objectifs assez ambitieux et importants de l'Union européenne pour l'environnement.
D'accord. Et enfin, peut-être qu'on peut terminer sur la notion d'appartenance, donc qui est le troisième volet de cette devise relance, puissance, appartenance. J'ai vu qu'il y avait une académie d'Europe qui avait été proposée.
Il y a ça et la volonté de faire des universités européennes, c'est-à-dire des collaborations entre les universités nationales pour avoir un programme commun entre plusieurs universités. C'est un projet qui a été initié, qui n'est pas encore concrétisé. Et ça rejoint en fait cette volonté européenne d'être unie dans la diversité, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire une université européenne dans le sens où c'est une formation européenne et on oublie les spécificités des États. Mais il y a quand même cette volonté d'avoir des valeurs communes et de pouvoir profiter d'un système universitaire d'un autre État que celui auquel on appartient.
D'accord, ouais, c'est un beau projet aussi, assez ambitieux. Et peut-être qu'on a fait le tour pour les grands objectifs. Une dernière question, la présidence française de l'Union européenne, elle est traversée cette année, on le sait, par l'élection présidentielle en avril 2022. Alors ça avait déjà été le cas en 1995, lorsque Mitterrand du coup avait laissé sa place à Jacques Chirac, qui avait poursuivi ce travail-là de présidence française du Conseil de l'Union européenne. On peut s'attendre à ça pour cette année, mais qu'est-ce que ça va impliquer aussi ? Est-ce que c'est pas une difficulté ?
C'est vrai que ça engendre des craintes, la crainte que les travaux soient ralentis à partir de mars, lors de l'élection. Et donc l'alternance qui avait eu lieu en 1995, comme Mitterrand ne s'était pas présenté, on savait, donc je pense qu'il y a eu cette anticipation qui n'est peut-être pas forcément le cas actuel. Et y a en fait un organe qui s'appelle la représentation permanente de la France à Bruxelles, qui permet justement de faire le lien et en fait elle est considérable et elle s'est renforcée d'année en année. Et donc elle permet justement d'assurer une continuité en fait tout au long de ce semestre où il y aura justement des interférences de la part de cette campagne. Et donc cette représentation préside les négociations techniques et donc gère les travaux techniques qui demandent un travail de longue haleine. Et elle assure cette continuité. Donc elle permet justement de ne pas trop faire peser cet enjeu national et la vie politique française qui aurait un impact considérable sur la vie politique européenne. En revanche, il y a quand même un petit point relatif à apporter, c'est que il y a une nécessité de capacité d'impulsion politique donc qui dépasse cet enjeu stratégique et technique qu'incarne la représentation française. Et dans ces cas-là, s'il y a un changement de président, donc un bouleversement politique, ça peut mettre en question la capacité de l'État en question, donc la France, pour réagir en cas de crise, qui est pourtant nécessaire parce qu'en 2020, on a vu que l'Allemagne, qui est un pays solide, qui était à la tête de l'Union européenne pour le premier semestre, a su répondre rapidement et donner une réponse encourageante pour la crise sanitaire de la part de l'Union européenne.
D'accord. Et si jamais il y a un parti totalement différent de celui d'Emmanuel Macron, qui est élu pour avril, est-ce que ça va changer les objectifs ou les objectifs sont vraiment appelés à rester en place pour l'Union européenne ?
Les négociations peuvent être interrompues, il peut y avoir des retours, mais dans la mesure où la majorité des travaux seront lancés et auront commencé depuis déjà 3-4 mois, il semblerait compliqué que les priorités changent. Puis il y a quand même un volet institutionnel où le président en charge se présente devant le Parlement en session plénière pour présenter les orientations. Ce serait assez compliqué à mettre en place pour le président arrivant de tout bouleverser.
D'accord, et ben merci beaucoup. La prochaine présidence française de l'Union européenne, ce sera en 2035, donc ça demande longtemps. Maintenant, c'est vrai que c'est plutôt tous les 16 ans, étant donné qu'il y a beaucoup plus de pays qu'auparavant dans l'Union européenne. Donc voilà, merci à vous deux d'être venus nous expliquer un petit peu tous les enjeux autour de cette présidence française du Conseil de l'Union européenne. Puis on espère vous revoir bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.